Bonjour frères et sœurs, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue ce matin à ceux qui sont de passage. Je sais qu'il y a un couple qui vient de Strasbourg, j'ai appris cela tout à l'heure et j'ai eu l'occasion de les saluer. Nous leur souhaitons la bienvenue et que le Seigneur les bénisse pendant ce temps qu'ils vont passer dans la région. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces moments que nous venons de vivre dans la louange, dans l'adoration. Et je vous propose de faire une lecture avec moi dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3. Paul aux Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous nous courbons encore devant toi pour te rendre grâce et te remercier de nous avoir laissé ta parole, ce guide précieux. C'est au travers d'elle que nous avons la révélation de ta volonté et c'est aussi à cause de cela que nous réclamons le secours de ton esprit pour qu'en la méditant, nous puissions saisir ce qui est important pour chacun d'entre nous. Seigneur, mets en nous cet esprit de sagesse et de révélation pour que nous puissions faire des progrès dans tes voies. Nous te louons pour le salut dont nous sommes les bénéficiaires et maintenant que nous t'appartenons, nous voulons marcher dans tes voies d'une manière conforme à ta volonté. Donc viens-nous en aide et à toi seul soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Permettez-moi de commencer cette méditation ce matin par une petite illustration qui vous permettra de mieux comprendre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun de vous en cette matinée. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour reconnaître qu'il est possible de savoir beaucoup de choses en matière de mécanique, savoir comment fonctionne un moteur, savoir aussi comment fonctionne la transmission, le système électrique d'un véhicule, et pourtant ne jamais avoir utilisé une automobile. Et à contrario, il peut y avoir quelqu'un, et c'est un peu mon cas, qui ne connaît pas grand-chose en mécanique et qui ne pourrait pas répondre à certaines questions techniques au sujet du moteur, du système électrique, de tant d'autres choses, mais qui utilise tous les jours le véhicule, l'automobile, et fait de nombreux kilomètres. De la même façon, il y a des personnes qui peuvent connaître beaucoup de choses concernant la parole de Dieu, la doctrine de Jésus-Christ. On veut aussi savoir quelles sont les règles d'interprétation de l'Écriture, de la parole de Dieu. Connaître tous ces éléments-là et pour autant ne pas vivre d'une manière conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est certainement la préoccupation qu'avait l'apôtre Paul quand il a écrit à cette église d'Éphèse. Et cet homme va commencer dans les premiers chapitres à mettre en relief tout ce qu'un chrétien véritable est quand il est caché en Jésus-Christ. Il met en évidence tout ce qui est notre partage quand nous sommes en Jésus-Christ, que nous le connaissons, que nous vivons par sa grâce. Tout cela, il l'a mis en évidence dans les premiers chapitres, je dirais du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Et puis, à partir du verset 14 du chapitre 3, alors il fait monter vers Dieu une prière vers l'Éternel. Et au travers de cette prière, il demande au Seigneur que tout ce que les chrétiens peuvent connaître de leur position en Christ, tout ce que les chrétiens peuvent savoir lorsqu'ils sont cachés dans la personne de Christ, devienne quelque chose de réel et de pratique dans leur manière de se comporter, dans leur manière de marcher. Et c'est ainsi que nous avons ici la révélation de ce qu'un véritable pasteur doit avoir comme souci pour l'Assemblée, comme souci pour l'Église. D'abord, inculquer dans le cœur de tous ceux qui prétendent connaître le Seigneur la richesse qu'ils ont au travers de la personne de Jésus, l'héritage qui est leur partage lorsqu'ils sont en Jésus-Christ, et également les bénédictions nombreuses, spirituelles, que nous pouvons avoir en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tout cela, tous les chrétiens doivent le savoir, doivent le connaître. Mais en même temps, si nous sommes conscients des richesses que nous possédons, si nous sommes conscients de la puissance qui finalement habite en nous, car Christ étant ressuscité et vivant en chacun d'entre nous, représente une puissance extraordinaire qui nous permet aussi de mettre en évidence ce qu'est le véritable christianisme. Si Christ vit en nous, si Christ réellement règne sur le trône de notre cœur, si par la puissance du Saint-Esprit, il est dans notre cœur en plénitude, alors ce qu'il a été, c'est ce que nous devons être. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous devons faire. Et c'est là que nous nous apercevons qu'il y a parfois une sorte de décalage entre ce que nous connaissons dans notre position en Christ et nos actions, ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, ce que nous réalisons, alors que peut-être nous sommes riches, mais nous agissons comme des mendiants. Alors on va voir comment Paul intercède, prie et demande à Dieu qu'il y ait une intervention pour que cela ne soit pas simplement la vie chrétienne une théorie, mais que ce soit quelque chose de pratique et de concret. Paul est soucieux de voir le peuple de Dieu marcher d'une manière conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, il dit ici, et c'est le premier point que nous allons développer, qu'il plie les genoux devant Dieu pour que nous puissions, nous, être fortifiés dans notre être intérieur et que fortifiés dans notre être intérieur, nous puissions connaître par expérience tout ce que la Bible nous révèle, tout ce que la Bible met en évidence devant nos yeux. Alors, il dit ceci, à cause de cela, c'est comme ça qu'a commencé le texte que nous avons lu ensemble. Et nous avons le droit de nous poser la question, cela, c'est quoi? À cause de cela, eh bien, cela, ça a été écrit au premier chapitre. En lui, au verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, nous avons la rédemption par son sang, au verset 7. En lui, au verset 11, il est dit, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lui, au verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et il continue en disant, puisque tout ça, c'est votre partage en Christ, eh bien, je prie le Seigneur pour qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous sommes au milieu d'une génération qui a besoin de voir, au travers de l'Église de Jésus-Christ, la manifestation de la gloire de Dieu. S'il ne voit en nous qu'un système religieux avec des préceptes, avec aussi des rites, avec une manière d'agir qui est une sorte de tradition, alors le cœur de ceux qui nous entourent ne pourra pas être gagné parce que ce que le monde a besoin de voir, c'est Christ en nous, non seulement dans notre manière de vivre, mais de voir Christ agir au travers de nous par des miracles et des choses glorieuses, puisque vous en conviendrez. Il est écrit dans la parole du Seigneur, et c'est Jésus qui parle, non seulement que nous pourrions faire ce qu'il a fait, mais encore des choses meilleures. Non pas plus grandes dans le sens que nous savons bien, que personne ne pourra égaler notre Seigneur et que ne serait-ce que dans cette faculté de créateur, nul d'entre nous ne pourra jamais y parvenir puisque nous sommes des créatures. Mais Dieu nous donne au travers de Christ la capacité, la possibilité de faire ce qu'il a fait. Et que ses ordres puissent être accomplis, réalisés. Il a confié une mission, et cette mission, il a confiée à l'Église. Et il a dit, allez par tout le monde, et annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais nous connaissons aussi le reste. Et il a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et puis il y a toutes sortes de choses qui rentrent dans le cadre du service de Dieu lorsque nous sommes cachés en Christ. Et vous en conviendrez, mes frères et sœurs. Et je le déplore pour moi-même en premier. Il y a un décalage entre ce qu'il nous dit de faire et ce que nous accomplissons. Entre ce qu'il nous dit de vivre et ce que nous vivons. C'est la raison pour laquelle je comprends que l'apôtre Paul ait eu ce souci qu'il se soit tenu devant Dieu, qu'il ait plié le genou devant Dieu et qu'il ait intercédé pour l'Église. Comme je vais vous demander, mes frères et sœurs, que nous prions ensemble, chacun de nous, dans notre maison peut-être, mais que nous prions pour que Dieu nous accorde cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour que nous ayons une juste valeur et une juste vision de la grandeur de l'héritage que nous avons en Christ, pour que nous puissions nous comporter non pas comme des misérables, mais que nous puissions nous comporter comme de véritables et authentiques fils de Dieu. Et nous le sommes. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Si le monde ne nous reconnaît pas, nous, nous savons en qui nous avons cru. Cependant, il y a des progrès à faire dans cette direction. Je fléchis les genoux, dit Paul. Écoutez, l'attitude qu'il adopte ici, je dirais sur le plan physique, n'a pas beaucoup d'importance. Je voudrais simplement vous dire qu'il y a d'autres passages dans l'Écriture où nous voyons des hommes de Dieu adopter physiquement, dans la prière, une autre attitude que celle-là. Par exemple, lorsque David est rentré dans le temple et qu'il a invoqué le nom du Seigneur, eh bien, il est dit qu'il est entré, il s'est assis et il a prié Dieu. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané, eh bien, il a aussi invoqué le nom de son Père. Il s'est tourné vers son Père et il a ajouté un geste physique. Il n'a pas plié les genoux, il ne s'est pas assis, comme précédemment je viens de le démontrer au travers des témoignages cités, mais il est tombé sur sa face. La chose qui est importante, c'est que notre cœur soit courbé devant Dieu, profondément humilié. Comme je l'ai entendu au travers de la prière d'un frère ce matin, nous avons besoin d'être vraiment humiliés devant Dieu, parce que Dieu ne dédaigne pas un cœur qui est brisé, un cœur qui est humilié. Et c'est quand nous adoptons cette attitude-là, qu'alors il va pouvoir venir à notre secours. Et je comprends la raison pour laquelle, eh bien, l'apôtre Paul l'a dit dans une autre circonstance. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'il a compris que par lui-même, il n'arriverait certainement pas à faire tout ce que Dieu lui demandait de faire. Et tant de fois j'ai entendu ce matin, et plusieurs l'ont exprimé au travers de leur prière, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais il ne s'agit pas que ce soit simplement un vocabulaire dans notre bouche, il faut que nous soyons convaincus. Nous sommes faibles et misérables naturellement. Mais attention, je ne cherche pas à humilier ici. Je cherche simplement à vous dire, ça, c'est notre condition naturelle. Mais en Christ, gloire soit rendue à Dieu, nous pouvons être plus que vainqueurs. Par celui qui nous fortifie. Il plie les genoux, et puis regardez devant qui il plie les genoux. Il plie les genoux devant le Père. Il va demander des choses extraordinaires. Et on pourrait être en droit de penser qu'il va citer alors la personne la plus hautement élevée, le Dieu de gloire, sa majesté. Non, il utilise ce terme, le Père, ça nous interpelle. Voyez-vous, il n'y a pas de papa ici-bas sur la terre, à moins qu'il ne soit un insensé, qui ne va pas ouvrir son cœur, avoir une attitude favorable pour son enfant. Pas de papa qui va repousser son enfant, même quand il a fait des actes de désobéissance. Un père a toujours une oreille attentive pour son fils, mais nous ne sommes que des êtres humains, faillibles, avec plein de défauts. Mais notre Père, eh bien, lui, il est toujours prêt à nous accueillir. Quand nous nous approchons de lui pour invoquer son nom, pour mener le combat dans la prière, nous pouvons être sûrs que ses bras sont ouverts, qu'il va être attentif, qu'il écoute. Et comme il est écrit dans la Bible, s'il écoute, s'il entend, il exauce. Parce que nous nous présentons devant lui, non pas notre nom personnel, mais au nom de son Fils bien-aimé. Et quand nous invoquons le nom de Dieu au travers du nom précieux de Jésus-Christ, eh bien, voyez-vous, c'est comme si Jésus lui-même se présente devant le Père. Et vous savez ce que Jésus a dit dans une de ses prières quand il était ici-bas sur la terre, et notamment devant le sépulcre de Lazare. « Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Donc, si nous sommes cachés en Christ, vous voyez, mes frères et sœurs, le privilège que nous avons de nous présenter devant le Père, de savoir que nous sommes acceptés, de savoir aussi qu'il entend, de savoir qu'il va répondre, parce que ses promesses sont certaines. Ce que sa bouche a dit, la Bible dit que sa main l'accomplit. Et nous pouvons être certains que lorsque nous intercédons de cette manière-là, que nous nous tenons devant Dieu, alors nous allons pouvoir être fortifiés dans notre être intérieur selon la richesse de sa gloire. Je voudrais vous faire remarquer, il n'est pas dit que nous allons être fortifiés selon sa richesse, mais selon la richesse de sa gloire. Je voudrais expliquer cela. Vous voyez, si, par exemple, il y a un millionnaire parmi nous et qui lui prend le désir de donner à quelqu'un qui est dans le besoin 100 euros, 200 euros, je dirais, il donne là de sa richesse. Mais si, d'une manière très généreuse, au lieu de donner 100 euros, 200 euros, il donne 25 000 euros, là nous sommes obligés de dire, il donne selon sa richesse. Et la richesse de Dieu, elle est immense. La richesse de Christ, elle est immense. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons être certains que si nous invoquons son nom avec cette attitude de cœur de laquelle je viens de parler, bien, il va nous fortifier selon sa richesse dans notre être intérieur. L'être intérieur, c'est la chose la plus importante. Vous voyez, bien souvent, nous sommes concentrés dans nos prières, dans ce qui est matériel, physique, et nous sommes davantage préoccupés par ce que nous pouvons recevoir ici-bas, sur la terre, et finalement, qui ne peut nous être accordé que d'une manière momentanée. Mais ici, il est parlé de valeurs spirituelles. Et c'est étonnant, mais nous sommes, je dirais, davantage enthousiasmés, heureux par les richesses ou les bénédictions matérielles que nous pouvons obtenir ou les bénédictions sur le plan physique que nous pouvons obtenir. Et parfois, nous le sommes beaucoup moins, en tous les cas, nous exprimons moins notre reconnaissance pour les richesses spirituelles qui sont notre partage en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle vous pourrez le remarquer. Aussi bien dans nos prières sur le plan familial ou individuel que dans les prières à l'heure de la réunion que nous appelons réunion de prière, eh bien, elles s'élèvent vers Dieu. Pourquoi ? Pour demander souvent, en priorité, bénédiction physique, bénédiction matérielle. Seigneur, tu vois ma souffrance, tu sais de quoi je suis atteint. Seigneur, j'ai besoin de ton secours ici, matériellement, j'ai besoin de ton secours physiquement. Regarde dans quel état je me trouve. Et c'est toujours à ce niveau-là. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres richesses. Et je peux vous assurer qu'il y a des hommes remarquables qui ont manifesté un enthousiasme, un dynamisme, une vitalité spirituelle extraordinaire, malgré la faiblesse dans laquelle ils étaient dans leur corps. C'est d'ailleurs le partage de l'apôtre Paul, qui à un moment donné, eh bien lui-même, s'est trouvé dans exceptionnellement, parce que c'est rare de voir l'apôtre Paul prier pour lui-même. Et quand il prie, c'est toujours pour demander à Dieu qu'il ait la possibilité de parler librement de la grâce de Christ, de présenter l'évangile. Et quand il demande aux autres de prier pour lui, il dit « Demandez à Dieu que des portes soient ouvertes pour la prédication de l'évangile. » Mais une fois, nous le voyons dans la parole de Dieu, prier pour lui. Et qu'est-ce qu'il a demandé ? Seigneur, délivre-moi de cet ange qui me soufflette. Délivre-moi de cette écharde qui se trouve dans ma chair. Je ne peux pas dire ici ce qu'était l'écharde de l'apôtre Paul, sinon que seulement au travers d'un texte de l'Écriture, nous voyons qu'à un moment donné, il remercie les chrétiens qui ont su l'accueillir sans montrer de dégoût à son égard, ce qui veut dire que il devait avoir une infirmité, peut-être des yeux, que sais-je, ou dans son corps, mais qui avait une marque répugnante. Mais les chrétiens n'ont pas manifesté de répugnance. Ils l'ont accueilli avec un grand amour. Et même il dit, je rends ce témoignage que s'il vous avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Mais il dit, j'ai prié le Seigneur à trois reprises, mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Est-ce qu'il est resté dans la défaite ? Est-ce qu'il a été anéanti ? Il a continué à agir. Et il a connu des moments de persécution, des moments de souffrance, des moments intenses où il a dû faire face aux attaques de l'adversaire. Mais une chose est certaine, toujours, toujours, il glorifiait le nom du Seigneur. Ah, mes frères et sœurs, il faut que l'Église retrouve cet esprit de louange et d'adoration. Plutôt que d'être repliée toujours sur elle-même pour les petits problèmes, pour les petits détails qui nous amoindrissent, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est certaine, eh bien, c'est que le Seigneur est capable de nous aider à être plus que vainqueurs, même dans les moments les plus difficiles. Je vais répéter ce que je crois avoir dit dans une certaine réunion. Parmi les hommes de foi qui sont cités dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, il y a ceux qui ont réalisé des exploits, ceux qui ont fermé la gueule des lions, ceux qui ont été vainqueurs dans la fournaise et dont le feu n'a pas pu les atteindre. Il y a tous ceux qui, comme Samson, ont réalisé des exploits considérables. Ils sont cités comme héros de la foi, mais il est aussi cité dans les héros de la foi ceux qui ont été persécutés, torturés, ceux qui ont été sciés. Ça veut dire que certains ont connu un sort déplorable, mais ceux-là aussi sont héros de la foi. Parce que dans de telles circonstances, eh bien, il n'y a pas eu autre chose dans leur bouche que de rendre gloire au Seigneur, de rendre gloire à Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, dans ce monde, ça n'ira pas mieux demain. Vous savez qu'un certain chanteur du monde a dit « ça ira mieux demain ». Moi, je vais vous dire « ça n'ira pas mieux demain ». C'est très négatif. Peut-être vous allez repartir en disant « si j'avais su, je ne serais pas venu ce matin » pour entendre que ça n'ira pas mieux demain. Eh bien, je vais insister lourdement. Non, ça n'ira pas mieux demain. Et pour toi, il y aura des épreuves. Pour toi, il y aura des difficultés. Pour toi, il y aura encore des larmes à verser. Pour toi, il y aura encore beaucoup d'incompréhension de la part de ton entourage. Tout ça, ça peut être ton partage. Mais pour toi, il y a une chose qui ne changera jamais. C'est que Christ a promis de ne jamais nous abandonner. Et il a dit que nul n'a le pouvoir de nous ravir de sa main. Donc être fortifié dans l'homme intérieur, ça veut dire que parfois, comme l'apôtre Paul l'exprime par ailleurs, bien l'homme extérieur tombe en décrépitude. Moi, je le constate tous les jours en me regardant dans le miroir. Et je me rends compte que physiquement, eh bien, rien ne va plus. Tout cela, effectivement, est comme une tente qui est en train de se détériorer. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, au fur et à mesure que ce corps tombe en décrépitude, L'être intérieur peut être renouvelé par la puissance de l'Esprit. Ah, mes frères et sœurs, ne comptons pas seulement sur le Saint-Esprit pour l'exercice de quelques dons, pour simplement parler en langue de temps en temps, en prétendant que puisque nous parlons en langue, nous sommes pleins du Saint-Esprit. Tout ça, c'est faux. Il y a plus que cela. C'est quand Christ règne dans notre cœur, quand Christ remplit notre vie, que là, alors, nous glorifions Dieu. D'ailleurs, le deuxième point, eh bien, il est là. Il dit « Fortifiez dans votre être intérieur pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Et là apparaît quelque chose qui nous semble contradictoire. Parce que finalement, quand est-ce que Christ vient habiter dans notre cœur? Jésus n'a-t-il pas dit dans un évangile que lorsque nous recevons sa parole et que nous nous tournons vers lui, il est dit « nous », parce qu'il parle là du Père, du Fils et du Saint-Esprit, « nous viendrons faire notre demeure dans ce cœur ». Donc, quand on se convertit, qu'on se tourne vers le Seigneur, que l'on est de nouveau, le Seigneur vient habiter dans notre cœur. Pourquoi ici, s'adressant donc à des chrétiens, l'apôtre Paul dit qu'il faut être fortifié dans l'homme intérieur pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi? Paul semble inverser l'ordre normal des choses, mais ici, il ne parle pas de la résidence de Christ pour le salut, mais de la résidence de Christ pour la sanctification. Quand voyez-vous, si Christ a fait sa demeure en nous, il peut parfois être pas très à l'aise dans notre vie et dans notre cœur. Car s'il y a des choses qui sont en contradiction avec sa volonté, comment voulez-vous que le Seigneur soit vraiment à l'aise dans notre cœur? Direz-vous, mais comment pouvez-vous parler comme ça? Est-ce que vous pouvez, par l'Écriture, nous montrer que le Seigneur peut être comme de passage, juste un instant dans notre vie, ne pas y demeurer d'une manière permanente? Bien, je vais vous répondre avec ce verset qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 14 et au verset 8. Regardez comment cet homme parle. « Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait? Pourquoi serais-tu au milieu de nous, Éternel, et ton nom serait invoqué, mais tu serais comme un héros incapable de nous secourir? » Vous vous rendez compte ce que dit ici le prophète Jérémie? Pourquoi serais-tu comme quelqu'un qui passe? Voyez, il y a des moments où nous pouvons, dans une réunion comme celle-ci, être saisis par l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, bien, on a l'impression, oui, que tout peut devenir possible. Et on peut être soulevé par un certain enthousiasme passager, parce que le Seigneur qui est présent, eh bien, peut parler à une conscience, à un cœur, il peut faire du bien, il peut même guérir. Et puis la réunion prend fin, et puis on s'en va, et puis on va vaquer à nos occupations. Et puis le Seigneur, eh bien, est estompé dans notre esprit, disparaît même parfois, et nous nous confondons parfois même avec le monde, agissant comme le monde, pensant comme le monde, interprétant la vie comme le monde le fait, en oubliant tout ce que Dieu nous dit et tout ce qu'il est réellement. C'est la raison pour laquelle il y a ces moments précieux, personnels, et c'est pourquoi je vous dis chaque fois, mes frères et sœurs, Le moment de renouvellement pour chacun d'entre nous, c'est pas seulement à l'heure de la réunion. C'est chaque jour dans nos maisons. C'est tout le temps dans la recherche de la face de Christ. Négligeons cela et nous allons descendre de plus en plus bas. Négligeons cette recherche de la face du Seigneur, d'être renouvelé dans notre homme intérieur. Et vous allez voir comment, en fait, eh bien, cette habitation de Christ va, dans le fond, être changée en une demeure où beaucoup de choses seront présentes, excepté la pensée de Christ. Et ce qu'il nous faut, c'est être vraiment dominé par la pensée de Christ, par la pensée du Seigneur. Voyez-vous, être enraciné en lui, c'est une chose très importante. Paul ne parle pas du fait de la présence, mais de la qualité de sa présence en nous. Je voudrais expliquer peut-être encore cela par des témoignages tirés de la parole de Dieu. Vous aurez l'occasion à la maison, si vous le désirez, de découvrir dans le chapitre 18 du livre de la Genèse la visite que Dieu a faite à Abraham. Et chose étonnante, il est dit que Abraham, alors qu'il était à l'entrée de sa tente, a vu trois personnes s'approcher de lui. Il y avait le Seigneur, semble-t-il, et puis deux autres personnes qui d'ailleurs sont présentées dans le chapitre suivant comme des anges. Et quand Abraham a accueilli le Seigneur avec ces anges-là, Abraham a fait quelque chose. Il a présenté un holocauste au Seigneur, un veau gras, il a préparé un festin pour le Seigneur. Et il est dit que le Seigneur est resté là, il a demeuré avec lui, comme s'il se sentait à l'aise, là, dans la tente d'Abraham. Le chapitre suivant nous dit que deux anges seulement sont allés vers la demeure où se trouvait Lot. C'est comme si, dans le fond, le Seigneur, la personne principale, ne pouvait pas être à l'aise là-bas. Pourquoi ? Parce que vous savez ce qui est écrit dans l'Écriture au sujet de Lot. Il est dit qu'il tourmentait tous les jours son âme juste à cause de tout ce qu'il voyait. Seulement, la différence entre lui et Abraham, c'est que l'un se séparait du mal, tandis que l'autre non. Et là, eh bien, il ne peut pas y avoir de cohabitation qui soit une expérience de plénitude. Et c'est la raison pour laquelle nous, ce que nous devons rechercher, c'est d'être remplis de Christ, remplis de Dieu. Être rempli de Dieu, ça veut dire quoi? Je vais encore utiliser d'autres exemples. Quand en parlant d'une personne, on dit « elle est remplie de colère », ça veut dire quoi? C'est qu'elle est dominée par la colère. Quand une personne est remplie d'amertume, ça veut dire qu'elle est dominée par l'amertume. Si elle est remplie de joie, elle est dominée par la joie. Remplie de Dieu, remplie de Christ, ça veut dire qu'on est dominé par lui. Et finalement, si nous reconnaissons que Christ est le chef, n'est-ce pas la meilleure chose qui pourrait nous arriver que d'être dominé par le Seigneur, pour que dans nos actions, dans notre comportement, dans notre attitude, eh bien, cela puisse être manifesté. Je prie le Seigneur d'abord pour moi, parce que j'en ai besoin. Je me réalise chaque fois que j'approfondis la méditation de la parole de Dieu, combien je peux être loin, loin, loin. Et j'ai besoin que vraiment tout ça devienne une réalité bien plus conforme à ce que je vis dans mon existence, afin que aussi ce soit votre partage. Mes frères et sœurs, c'est dans ce sens que nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Et quand nous le ferons avec authenticité, quand nous le ferons réellement en cherchant le Seigneur de tout notre cœur, alors vous allez voir, quelque chose va être transformé, quelque chose va être changé. La vie de l'Église sera changée, parce que la vie de l'Église dépendra de ce que nous sommes chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle il faudra continuer dans cette direction-là. Il demande aussi une chose, c'est que les chrétiens soient enracinés dans l'amour. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour agapé. Non pas l'amour Philadelphia qui est l'amour fraternel, mais l'amour agapé, qui ne dépend pas de nos sentiments. Écoutez bien, ne dépend pas de nos sentiments, mais dépend de la volonté. Une volonté qui a été régénérée par le Saint-Esprit. Parce que Dieu, là, nous impose quelque chose. D'ailleurs, vous savez qu'il est écrit que le vouloir et le faire est suscité en nous par le Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je réalise que c'est un miracle quotidien. Il n'y a que Dieu qui peut, par son Esprit, nous donner cet amour. Déjà, d'abord, pour lui et la révélation de son amour à notre égard. D'ailleurs, il le précise dans sa prière, « Afin que vous connaissiez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour. » En y ajoutant quelque chose, il dit un amour qui surpasse toute connaissance. Alors, je me dis, mais il est plein de contradictions, Paul. Il dit que nous devons connaître la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour. Et en même temps, il dit, ça surpasse toute connaissance. Alors, comment connaître ce qui surpasse toute connaissance? Écoutez bien, quand nous avons la révélation par le Saint-Esprit, ça dépasse toutes les connaissances humaines. C'est à ce niveau-là que nous sommes placés au-dessus. Et qu'est-ce que c'est que la largeur de l'amour de Dieu? C'est en lisant avec attention toute cette lettre qu'il a écrite aux Éphésiens qu'on se rend compte qu'il y a vraiment, eh bien, un fil conducteur dans tout ce qu'il enseigne. La largeur, parce qu'il dit au chapitre 2 et au verset 11, il dit parce que pour lui, il n'y a pas de peuple privilégié, il dit les Juifs et les non-Juifs sont englobés dans cet amour. Tous les êtres humains sont englobés dans l'amour de Dieu. La longueur, au chapitre 1er, versets 4 et 5, parce qu'il est dit qu'il nous a aimés dès avant la fondation du monde et nous jusque dans l'éternité. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que l'on peut sonder cela avec l'intelligence humaine? C'est difficile. Ça, c'est la longueur. Dès avant la fondation du monde, c'est-à-dire je n'étais même pas né. Et bien sûr que non, puisque le monde lui-même n'était pas créé. Il me connaissait, il m'aimait, m'avait prédestiné, comme il l'a fait pour vous. Et cela pour l'éternité, dans sa grâce ineffable, dans son amour tout-puissant. Voilà la longueur de son amour, la profondeur. Parce qu'il n'y a pas d'abîme de corruption aussi profond qu'il ne puisse descendre pour chercher le pécheur. Le plus infâme des pécheurs, la main du Seigneur est capable de le saisir et de le relever pour faire de lui un enfant de Dieu. Est-ce que nous aurions oublié ce que nous étions avant? Dans la même épître, il dit « Qu'étiez-vous tous des enfants de colère ?» Vous viviez autrefois selon les principes de ce monde, mais vous avez été ressuscités en Christ. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Quelle profondeur de l'amour de Dieu! Il est venu nous chercher dans notre misère et nous a élevés à la dignité d'enfants de Dieu. Auteur, eh bien, parce qu'il dit, au chapitre 1er, au verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ? Dans les lieux célestes. Ce que je suis n'a pas encore été révélé. Ce que vous êtes en Christ n'est pas encore révélé. Mais quand nous serons là-haut, tous changés en son image, comme ce sera formidable. Ici, on peut se regarder avec des doutes et on peut dire, ce frère-là, il me regarde. Hein, comment il me regarde ? Peut-être a-t-il mauvaise pensée. Hein ? Peut-être a-t-il dans son cœur certaines pensées en doutant de ma véracité, de mon authenticité. Peut-être pense-t-il que je suis un hypocrite ou autre chose. Vous savez, on peut tous avoir des pensées comme cela. Mais en Christ, non. En Christ, ce n'est pas possible. Parce qu'en Christ, nous serons parfaits. Mais déjà, ça peut commencer ici-bas. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il faut que cet amour de Dieu soit déversé par la puissance du Saint-Esprit. Et alors, je vais terminer avec cela. Regardez ce qu'il dit ici, pour tous ceux qui pourraient douter. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quelqu'un a dit au sujet de cette phrase que c'est pyramidal. Regardez, je vais essayer de le rendre plus clair. Il peut faire par la puissance qui agit en nous. Il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et aussi nous pensons. Vous vous rendez compte ? Il est absolument sans limite. Et Dieu dit, cette puissance-là, elle est à la disposition de tous ceux qui appartiennent vraiment au peuple de Dieu. Et nous faisons partie du peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, ne vous laissez jamais, jamais accuser ni diminuer par qui que ce soit. N'oubliez jamais ce que la Bible dit de ce qui est notre position en Christ, mais à partir de là, ne nous contentons pas de savoir, mais de vivre en conformité à ce que nous savons et qui est mis en lumière par la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide, vous et moi, et que son nom soit glorifié.